VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
18h, temps universel, dans 10 minutes, Sahel Plus avec Claire Morin-Gibourg, mais tout d'abord le journal. On commence par les Jeux Olympiques de Rio au Brésil. Première médaille d'or africaine aux Jeux. On attendait l'Éthiopienne Tirunesh Dibaba, mais c'est sa compatriote Almaz Ayana qui a remporté la médaille d'or du 10 000 mètres féminin et battu le record du monde. Les détails à Rio avec Thierry Kambundi de notre station partenaire à Kinshasa, Top Congo FM.
L'Éthiopienne Almaz Ayana vole la vedette à sa compatriote Tirunesh Dibaba sur 10 000 mètres. Elle a remporté l'épreuve ce vendredi 12 août à Rio et la médaille d'or à la clé en 29 minutes, 17 secondes et 45 centièmes, battant du même coup de 14 secondes le précédent record vieux de 23 ans. Double tenante du titre de l'épreuve, Tirunesh Dibaba s'est contentée de la troisième place en 29 minutes, 42 secondes et 56 centièmes. La Kenyane Viviane Cheruiyot s'est, elle, adjugée la médaille d'argent en 29 minutes, 32 secondes et 53 centièmes. Déjà championne du monde du 5000 mètres en 2015, Ayana a en tout cas marqué des points dans sa rivalité avec sa compatriote Tirunesh Dibaba. De Rio, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Au total, l'Afrique a maintenant gagné 10 médailles aux Jeux. Crise au Burundi maintenant, un rapport accablant sur des centaines d'exécutions de cas de torture et de viol commis au Burundi a été rendu public à l'ONU ce vendredi. Des détails avec Anastasie Toudiech.
Lors de sa 58e session tenue à Genève, le Comité contre la torture des Nations Unies a présenté un document de 12 pages dans lequel il demande aux autorités burundaises d'ouvrir des enquêtes indépendantes et impartiales sur 348 exécutions extrajudiciaires et 651 cas de torture enregistrés entre avril 2015 et avril 2016 qui auraient été commis en majorité par des membres de la police et des services de renseignement. Le comité dénonce également les disparitions forcées d'opposants politiques, citant 36 cas, toujours entre avril 2015 et avril 2016, les violences sexuelles par les forces de sécurité et des jeunes Imbonerakure, des miliciens, ainsi qu'une rhétorique génocidaire visant la minorité Tutsi. Le comité enjoint par ailleurs l'État à protéger les membres de la société civile qui ont coopéré avec le comité et à cesser tout acte de représailles. L'ONU a donné 2 mois au gouvernement burundais pour répondre des accusations portées contre lui.
En Zambie, les premiers résultats de l'élection présidentielle sont attendus aujourd'hui. Le scrutin s'est déroulé hier dans le calme, malgré une campagne tendue entre les deux favoris, le président sortant Edgar Lungu et son rival Hakainde Hichilema, dans un pays reconnu pour sa stabilité politique. Plus de détails avec Saloua Jafari.
Le décompte des bulletins a commencé hier pour déterminer les gagnants de ces élections. Les Zambiens votaient non seulement pour élire leur président, mais aussi leurs députés, leurs conseillers municipaux, ainsi que pour un référendum pour une modification de la Constitution. Le scrutin s'est déroulé sans incident majeur, et ce malgré des semaines d'affrontements parfois violents entre les supporters du Front patriotique d'Edgar Lungu, le président sortant, et les opposants du Parti uni pour le développement national de Hakainde Hichilema. Au moins 3 personnes ont été tuées pendant la campagne électorale au cours d'affrontements entre les deux camps. Lors des dernières élections, il y a 18 mois, pour remplacer le président décédé Michael Sata, c'était Edgar Lungu qui l'avait remporté. Les premiers résultats sont attendus ce soir ou demain et la proclamation officielle dimanche.
À noter que le principal candidat d'opposition, Hakainde Hichilema, dénonce déjà des fraudes pendant le scrutin présidentiel. Afrique du Sud, la grève de milliers d'ouvriers des centrales électriques du fournisseur public Eskom s'est terminée ce vendredi après 2 jours de débrayage. Les précisions de John Lyndon.
Un accord a été trouvé entre Eskom et les principaux syndicats du pays sur les revendications des ouvriers grévistes. L'accord prévoit une augmentation des salaires les plus bas à hauteur des 10% et des 8,5% ceux des employés les mieux payés. Les ouvriers grévistes obtiennent aussi une allocation logement de 173 € mensuels par ouvrier la première année et de 200 € l'année suivante. Les femmes enceintes auront quant à elles droit à 5 mois de congé maternité. C'est une victoire pour les travailleurs et nous sommes satisfaits d'avoir réussi à obtenir ce que nous voulions, a déclaré Livou Wani Mamburu, porte-parole de l'Union nationale des ouvriers miniers. Nous attendons de nos membres qu'ils reprennent le travail dès aujourd'hui. La grève est finie maintenant, a-t-il souligné. Eskom note qu'aucun incident n'a été signalé sur le réseau électrique pendant ces deux jours de grève.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
En Côte d'Ivoire, une responsable des femmes du Front populaire ivoirien FPI, le parti de l'ex-président Laurent Gbagbo, a été arrêtée à son domicile de Yopougon, quartier populaire de l'ouest d'Abidjan. C'est ce qu'a annoncé ce vendredi son avocat, Maître Toussaint Dako. Selon lui, Madame Antoinette Ouissa Meo a été appréhendée mercredi par 9 personnes se présentant comme des agents de la DST, la Direction de surveillance du territoire. Elle s'apprêtait à témoigner au procès de l'ex-première dame de Côte d'Ivoire, Simone Gbagbo, pour crime contre l'humanité, affirme Maître Toussaint Dako. Au Burkina Faso, au moins 12 morts et plus de 26 000 sinistrés. Tel est le bilan des vents violents et des inondations provoquées par les pluies diluviennes depuis juin. Plus de détails avec Eddy Issango.
Les victimes sont mortes par noyade ou dans l'effondrement de leurs habitations, souvent très précaires, dans ces pays sahéliens où 40% des 19 millions d'habitants vivent en dessous du seuil de pauvreté. 35 blessés graves ont été enregistrés selon le secrétaire permanent du Conseil national des secours d'urgence et des réhabilitations, Yapene Florent Bakouane. À Ouagadougou, deux personnes ont été emportées par les eaux, tandis que 4 autres sont mortes à cause de l'effondrement de leur maison à Namisiguima, dans le nord. Dans les banlieues et bidonvilles de Ouagadougou, près de 10 000 personnes ont été déclarées sinistrées et 2 000 d'entre elles ont été relogées dans des écoles, selon M. Bakouane. Les dégâts sont graves. Entre autres, plus de 2 500 maisons sont endommagées et plus de 650 volailles sont également mortes. Les autorités burkinabées redoutent que la situation des intempéries empire, car selon la météo, la situation pluviométrique pourrait être cette année excédentairement anormale dans la plupart des régions.
Actualité hors d'Afrique maintenant. En Syrie, des combattants du groupe État islamique ont pris en otage aujourd'hui environ 2000 civils. Les djihadistes ont emmené ces personnes avec eux alors qu'ils fuyaient la ville de Minbej dans le nord du pays. Jacques Aristide.
Al-Sireb, c'est le dernier quartier où les djihadistes étaient retranchés à Minbej, ville reprise le 6 août dernier par les FDS, les forces démocratiques syriennes qui regroupent des combattants arabes et kurdes. Mais en se retirant d'Al-Sireb ce vendredi, les djihadistes ont enlevé ces civils, dont des femmes et des enfants qu'ils ont utilisés comme boucliers humains. D'après les FDS, les djihadistes ont fui en voiture avec leurs otages vers la ville de Jarablus, un fief du groupe État islamique près de la frontière turque. La prise de Minbej constitue une grande victoire pour les FDS, l'une des principales forces anti-djihadistes en Syrie et qui sont appuyées par les avions de la coalition internationale dirigée par les États-Unis. Le groupe État islamique continue toutefois de contrôler de vastes régions syriennes, dont Raqqa.
Toujours concernant la lutte contre le groupe État islamique, les responsables militaires américains ont été trop optimistes dans leur évaluation des efforts de Washington dans la lutte contre le groupe État islamique en Irak et en Syrie. Telle est l'accusation contenue dans un rapport rédigé par des membres du Congrès américain et publié jeudi, Jacques Aristide.
L'enquête a été commandée après les avertissements de lanceurs d'alerte, d'après qui les patrons du renseignement triaient leurs informations pour présenter un tableau moins menaçant des dangers que représentait le groupe État islamique et enjoliver les efforts américains sur le terrain. Pour l'élu républicain Mike Pompeo, de tels renseignements manipulés ont très bien pu mettre en danger des soldats américains, tandis que son collègue Brad Weinstrop s'est demandé pourquoi cela a été fait. Les rédacteurs du rapport ont interrogé des dizaines d'analystes du CENTCOM, c'est le commandement des forces américaines au Moyen-Orient, dont beaucoup ont considéré leur encadrement à l'époque comme toxique. En outre, le CENTCOM a diffusé des communiqués de presse et a fait des déclarations publiques selon lesquelles la situation était significativement plus positive que la réalité d'après les enquêteurs. En milieu d'année 2015, la situation s'est améliorée avec l'arrivée de nouveaux dirigeants à la tête du CENTCOM. L'inspecteur général du Pentagone mène actuellement une enquête interne. Le ministère de la Défense n'a donc pas répondu en détail aux accusations que pointe ce rapport.
Et pour terminer la campagne présidentielle américaine, la candidate démocrate à la Maison-Blanche, Hillary Clinton, a publié aujourd'hui sa déclaration de revenus pour l'année 2015, critiquant son adversaire républicain Donald Trump, qui refuse toujours de se conformer à cette tradition. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Bonne soirée et bon week-end.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.